Ce matin, on va continuer notre lecture de l'épître de Paul aux Romains. Et je vous préviens, ça va être du costaud aujourd'hui. Donc on est au chapitre 5 et on va reprendre notre lecture à partir du verset 12. Alors, donc je reprends brièvement un peu pourquoi est-ce que Paul a écrit cette lettre. Paul a écrit cette lettre aux chrétiens de Rome parce qu'il avait le projet de voyager jusqu'en Espagne pour annoncer l'Évangile. C'était son rêve, à Tarsis, le bout du monde connu, le bout de l'Empire romain. On ne pouvait pas aller plus loin, l'Empire romain n'allait pas plus loin, on ne connaissait pas au-delà de l'océan. Donc c'était le bout du monde. Et pour ça, il a voulu préparer l'église de Rome à l'accueillir et à faire de cette église une espèce de base arrière pour sa mission exploratoire. Il leur a écrit cette lettre très complète où il détaille un peu toute sa connaissance et sa compréhension de l'Évangile. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, il pose un peu l'importance, et le côté central de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Au chapitre 1, il était parti de ce constat que tous les humains sont pécheurs. Ensuite, il avait développé en disant « Mais les Juifs, eux, ont reçu la loi de Dieu quand même, mais cette loi ne les a pas rendus innocents pour autant. Et eux aussi ont besoin d'un sauveur. » Et ensuite, il présente Abraham, et Abraham qui a reçu le salut par la foi, pour montrer qu'avant même que la loi de Dieu existe, il y avait déjà ce moyen de salut qui existait et de nous connecter, nous, les croyants d'aujourd'hui, qui espérons en Jésus en disant « Vous avez la même foi qu'Abraham et donc le même salut. » L'arrivée au chapitre 5, il nous enracine dans cette confiance que c'est bien par la foi que nous sommes sauvés et non pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Et je vais vous lire le passage final du chapitre 5 qui est un petit peu très compliqué. Verset 12. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul être humain, Adam. Et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu ait révélé la loi de Moïse, le péché existait déjà dans le monde, mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a exercé son pouvoir, même sur ceux qui n'avaient pas péché à la manière d'Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam était l'ébauche de celui qui devait venir, mais la faute d'Adam n'est pas comparable en importance au don gratuit de Dieu. Certes, beaucoup de personnes sont mortes à cause de la faute de ce seul homme, mais la grâce de Dieu est bien plus importante et son don bien plus grand. À beaucoup, ce don est offert gratuitement grâce à un seul Jésus-Christ. Et le don de Dieu a un tout autre effet que le péché d'un seul homme. Le jugement provoqué par le péché d'un seul a eu pour résultat la condamnation, tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour résultat l'acquittement. Certes, la mort a exercé son pouvoir par la faute d'un seul, et à cause de ce seul être, par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de sa justice vivront et régneront à cause de Christ. Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, permet à tous les humains d'être déclarés justes et de vivre. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de personnes sont tombées dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de personnes sont rendues justes. La loi est intervenue, et alors les fautes se sont multipliées. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Ainsi, de même que le péché a exercé son pouvoir de mort, de même, la grâce de Dieu exerce son pouvoir en toute justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça va ? C'est compliqué, c'est du Paul tout craché, et en plus de ça, dans son raisonnement, il fait un peu des pirouettes. Trois choses fondamentales sont à observer et à comprendre dans ce texte. D'abord, d'où vient que nous mourions tous? Première question, premier point. Deuxième point que nous allons voir, c'est le parallèle entre Adam et Jésus. Et le troisième point, ce sera la différence entre Adam et Jésus. Le premier point est peut-être le plus dur à avaler, je veux dire. Pourquoi nous mourons tous? La Bible nous raconte, et vous connaissez ce récit, que Dieu a créé l'humanité à son image, homme et femme, il les créa. Mâle et femelle, certains traduiront. Et cette humanité a reçu le règne, l'autorité sur toute cette création, parce que Dieu avait créé les humains pour ça. Et vous connaissez l'histoire que Adam et Ève ont désobéi à Dieu en prenant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en voulant déterminer quel serait le bien et le mal par eux-mêmes. Dieu les avait mis en garde que de manger ce fruit les ferait mourir. Alors ils n'ont pas connu cette mort à l'instant même où ils ont croqué ce fruit, comme s'il avait été empoisonné, mais ils sont devenus mortels. Et, comme dit Paul, toutes celles et ceux qui sont nés en Adam naissent mortels. Toutes celles et ceux qui naissent en Adam et Ève naissent avec cette nature pécheresse. Nous naissons maudits, presque, pourrait-on dire, à cause de la désobéissance de Adam. Et quelque part, on peut commencer à se dire, bon, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que toute une descendance naîtrait coupée de Dieu, mortelle, privée du paradis terrestre, à cause de la faute d'Adam et Ève? C'est vrai. C'est eux qui ont péché et pas moi. N'est-ce pas? Pour comprendre un peu cette réalité, je vous poserai cette question. Est-ce que vous êtes pour et contre d'hériter de vos parents? Tout simplement. L'héritage est un beau principe. Je vis une vie, je bâtis un patrimoine, je construis une culture, un savoir-être, un savoir-faire que je transmets à la génération suivante pour qu'ils démarrent dans leur vie riches de cet héritage et qu'ils aillent encore plus loin, encore plus loin. L'héritage, qu'il soit génétique, qu'il soit culturel, intellectuel, matériel, est un cercle vertueux par lequel la culture, les civilisations sont apparues. Nous héritons de nos ancêtres, un pays, une terre, une ville. Vous qui êtes nés, qui avez grandi à Vauvert, ou à Beauvoisin ou autre, vous n'avez pas construit ce village de A à Z. Rébi n'a pas bâti la maison qu'il habite. Une partie, mais pas tout. Il a agrandi un héritage. Non, mais c'est ça, c'est très intéressant. Il a développé un héritage qu'il avait reçu. Et nous trouvons ce principe vertueux. C'est bon, c'est juste. Et si l'État, à chaque génération, disait non, non, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as gagné de ta vie, chut, ne va pas à tes enfants, mais ça retourne à la collectivité, à l'État, et puis eux, ils redémarrent à zéro. Pire encore, imaginons une société où les enfants ne sont pas élevés par les parents, mais formatés par un système centralisé neutre. Nous aimons cette hérédité et c'est un principe vertueux. Mais comme tout principe vertueux, comme tout canal de bénédiction donné par Dieu, il peut être aussi un canal de malédiction. Et ainsi, on peut hériter aussi un héritage criblé de dettes. Parce que mon père ou parce que ma mère aura vécu d'une telle façon que il ne me transmet pas un patrimoine, mais une dette. On peut aussi recevoir des visions du monde tordues, des modèles parentaux pervertis, et travailler dans notre vie à nous désintoxiquer, à nous défaire de ces modèles. Parfois, on reçoit des héritages corrompus. Mais s'il est vrai que l'héritage peut être un cercle vertueux qui construit les civilisations, le monde et la vie entière, ça peut être aussi un cercle vicieux. Nous héritons de la mort et du péché d'Adam parce que nous aurions pu tout autant hériter la vie éternelle et l'obéissance. Et vous auriez pu naître dans un monde parfait si Adam avait obéi, sans avoir jamais à connaître la lutte contre le péché. Autant ce moyen aurait pu être un moyen de bénédiction intense, autant il est devenu pour nous la raison pour laquelle nous naissons coupés de Dieu. Et si vous trouvez ça injuste, et je le comprends, dites-vous, si vous êtes né avec une situation, avec des moyens de faire des études, dans un pays qui connaît la paix, dans un pays où tout le monde a accès à l'eau potable et à une sécurité de santé minimale, je vous le dis, qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait pour mériter de naître dans un tel pays à une telle époque ? Rien. Ce n'est pas juste. Qu'avez-vous fait pour naître dans un pays où vous pouvez toucher le chômage ? Ça n'est pas juste. Vous n'avez rien fait pour ça. Vous y êtes né. Parce que vos parents ont choisi d'eux. Et le même principe qui me fait la grâce d'être né en France au 21e siècle, 20e mois, mais vivre au 21e siècle, avec toute la beauté, la richesse et les problèmes aussi que nous connaissons en ce moment de ce pays, ce n'est pas par mérite, c'est parce que mes parents ont. Et de la même manière que j'hérite cette chance ou ces grâces, j'hérite aussi d'Adam la mort et le péché. C'est pas juste. Non. C'est pas une question de justice. C'est cette mécanique de la vie que vous connaissez, que nous connaissons, et qui tantôt nous accorde de la grâce et tantôt sera vécue peut-être comme une malédiction. Ça va ? Premier point. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul être humain, Adam. Et le péché a amené la mort, je relis le texte, hein. Et ainsi, la mort a atteint tous les êtres humains parce que tous ont péché. Okay. Deuxième point que j'ai oublié de mentionner, c'est la loi, le rôle de la loi. La loi de Moïse, avant qu'elle soit révélée, Dieu ne tenait pas compte du péché qui pourtant existait déjà dans le monde. Il n'y avait pas de loi de Dieu. Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a exercé son pouvoir, même sur ceux qui n'avaient pas péché à la manière d'Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam était l'ébauche de celui qui devait venir. Quel est cet développement que Paul fait vis-à-vis de la loi ? Paul explique que ce péché qui nous rend mortels, la loi de Moïse n'en est pas le remède. Elle en est, tout au mieux, le diagnostic. Il nous arrive des fois de ne nous sentir pas bien, courbaturés, fiévreux, etc. On se dit, oh, peut-être que j'ai ceci ou peut-être que j'ai cela. Et qu'est-ce qu'on fait? On va chez le médecin. Et le médecin pose un diagnostic. Et il va nous dire quel est le mal qui nous atteint. Mais en ressortant de la consultation, nous voilà pas guéris pour autant. En ressortant de la consultation, on peut se sentir mieux parce qu'on comprend mieux ce qui nous arrive, mais on n'est pas guéri pour autant. De la même façon, la loi de Moïse peut révéler, expliquer ces mécaniques du péché, les raisons pour lesquelles ce monde dans lequel nous sommes ne nous convient pas. Parce que tout finit par être détruit, parce que tout finit par être gâché. Ce monde ne nous convient pas parce que même moi, dans mon cœur, je n'arrive pas à marcher sur un chemin droit et juste et bon constamment, mais que immanquablement je m'en détourne à un moment ou à un autre. La loi de Moïse explique, révèle pourquoi, mais elle n'est pas le remède. Donc cette faute d'Adam nous a plongés dans un monde déchu, et nous vivons nous-mêmes déchus, et nous participons à la déchéance de ce monde. C'est pas juste. C'est vrai. C'est pas juste. Ce n'est même pas une question de justice. C'est que Dieu nous a créés capables de régner, et les humains, depuis ce jour-là, règnent, mais plus sous la peur de la mort que dans la quête de la vie. Et Paul continue en disant, voilà, cette figure de un seul homme, Adam, a pu faire rentrer tout le monde dans la mort et le péché. Et Dieu a suscité un deuxième, un dernier Adam, un nouvel Adam, qui de la même manière que le premier a fait rentrer le monde dans la mort, le deuxième peut faire rentrer le monde dans la vie. Une source, un nouvel humain source à travers lequel une nouvelle humanité va jaillir. De la même manière que la première humanité est née, toute issue d'Adam et de Ève, la deuxième humanité, celle qui vivra pour l'éternité, sera issue de Christ et de l'Église. Voilà ce que dit Paul. En ce sens-là, Christ est une figure comme Adam, où Adam était la préfiguration de Christ, parce que c'est en lui que toute la nouvelle humanité va vivre. Et Paul amène à cette comparaison en disant, voyez, la faute d'une seule personne entraîne le monde entier dans la mort. Et bien de la même façon, la justice de un seul va couvrir une multitude de fautes. La justice de un seul, l'obéissance et le sacrifice de Jésus va compter pour le péché d'une multitude, de multitudes. Et la mort de Christ ne va pas simplement nous remettre le compteur à zéro. Bon, allez, je te liquide ton ardoise, tu redémarres à zéro, mais maintenant arrête des bêtises, hein. Comme si, ah, ça y est, je suis purifié, faut que je reste pur jusqu'à ma mort. Je suis purifié de mes péchés passés, présents et futurs. Plongé dans une nouvelle forme de relation. Et c'est ça la grande différence. C'est que Adam était dans une relation avec Dieu, et tous ceux qui naissaient d'Adam, comme nous le sommes, nous étions dans une relation avec Dieu basée sur ce que nous, les théologiens, appelons une alliance d'œuvres. Tu veux gagner? Il faut mériter. Tu veux la vie éternelle? Il faut faire un sans faute. Sans faute. Une alliance d'œuvres. Nos frères en humanité, musulmans, bouddhistes, vivent encore des religions d'alliance des œuvres. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, on se réincarne au fil du samsara, le cycle de nos vies passées, présentes et futures. Et au fil de ces réincarnations, je vais purifier mon karma, disent-ils. C'est-à-dire éponger ma dette de mauvais karma, de choses mauvaises que j'apporte à ce monde. Et quand je parviens à purifier mon karma, je peux enfin me réincarner ultimement en moine pour tenter de parvenir à l'illumination et au nirvana ou au brahman, selon que je suis bouddhiste ou hindouiste. Donc un salut accompli par les œuvres. En islam, pratiquer les cinq piliers plus d'autres principes qui font qu'au jour où je me retrouvais devant Allah, j'espère que mon âme pesera moins lourd qu'une plume. Alors, je pourrais parvenir à la félicité. Mais est-ce qu'un musulman peut être certain de son salut ? Non, à moins qu'il meure en djihad, qui est la seule garantie. Et quelque part, il y a ce principe en nous de fonctionner au mérite, parce que notre monde est construit là-dessus. Il faut mériter son salaire, il faut mériter son diplôme, il faut mériter l'amour de nos proches, mériter peut-être même de pouvoir rester français bientôt, des choses comme ça. Le principe dans lequel le Christ nous fait basculer, la relation avec Dieu dans laquelle Christ nous fait basculer est un autre règne, une autre forme de relation. Et c'est ce que Paul explique. Ceux qui sont nés en Christ ne sont plus dans une relation à Dieu fondée sur le mérite des œuvres, mais sur la grâce. Sur la grâce. Une grâce totale, irrévocable, gagnée, méritée par Jésus en notre faveur. Donc, rentrer en relation avec Christ, naître en lui quelque part, et vous connaissez que c'est une expérience mystique, je reçois l'Esprit de Dieu, et en recevant l'Esprit de Dieu, je suis comme connecté à lui, Jésus, et je reçois de sa vie, je reçois sa justice, et mon péché, c'est lui qui l'a porté. On a un échange comme ça. Je ne peux plus mourir, spirituellement, je ne peux plus être séparé de Dieu. Je suis réconcilié avec lui. L'image de Dieu que j'étais coupée de son Créateur retrouve la possibilité de refléter, de briller de lui. Donc c'est cette vie nouvelle qui est accordée en Christ. Et je ne peux plus perdre. Ça ne me dérange pas, hein, Jean-Christophe. Tu peux rester avec nous, il n'y a pas de souci. Les bébés sont bienvenus dans l'Église. Ça, c'est important de comprendre qu'on quitte cette alliance d'œuvres, de méritocratie, pour basculer dans une alliance de vie où, en fait, toutes mes fautes passées, présentes et futures sont pardonnées, sont payées et qu'elles ne peuvent plus me séparer de Dieu. Ainsi, Paul explique, avant, la seule façon d'être sauvé, c'était par les œuvres. Mais les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qu'était le bien et le mal. Alors Dieu a donné sa loi à Moïse pour révéler le bien, le mal, le péché, la justice de Dieu. Mais quand la loi est arrivée, les hommes ont compris que d'autant plus à quel point ils étaient loin de Dieu. À la limite, quand tu n'as pas la loi de Dieu, tu ne sais pas à quel point tu es loin de Dieu. Quand tu découvres la loi de Dieu, tu peux comprendre à quel point tu es loin de Dieu. Et combien il te va être impossible de te sauver par toi-même. Et alors le Christ arrive, là où la loi a fait quelque part, on peut avoir l'impression qu'à cause de la loi, il y a eu plus de péchés, mais ce n'est pas qu'il y a eu plus de péchés à cause de la loi, mais c'est qu'à cause de la loi, on a encore plus compris l'ampleur du péché. Et sur cette ampleur, la grâce de Dieu est arrivée en Jésus-Christ pour tout porter et pour tout. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Peut-être que j'ai fait que récapituler des choses que vous saviez déjà, tant mieux. Ça nous conduit à une question importante, je trouve, c'est « Ok, je suis dans la grâce, qu'est-ce que ça change ?» Ça ne change rien tant qu'on ne fait pas l'effort de chercher à comprendre et à chercher. Je disais à mon fils hier, Est-ce que tu sais que la terre est ronde? Il dit oui. Il dit, est-ce que ça change ta vie? Il dit non. Et il a raison. Pour la plupart d'entre nous, ça ne change rien du tout. Rien du tout. C'est une connaissance parmi d'autres. Et pour certains, ce savoir aimé de Dieu peut être une connaissance parmi d'autres. Ce savoir pardonné de tous nos péchés par Dieu peut être une connaissance parmi d'autres. Mais la prochaine fois que vous êtes saisi de culpabilité, parce que vous n'avez pas assez fait, parce que vous n'avez pas assez été présent, parce que vous avez laissé passer telle ou telle occasion ou pas trouvé le courage en vous d'aller. On connaît tous des situations semblables. Et cette culpabilité pèse dans nos cœurs. À ce moment-là, vivez une expérience spirituelle. Regardez cette culpabilité à nu, ne vous excusez de rien, ne vous cherchez pas de circonstances atténuantes, reconnaissez à travers cette culpabilité qui vous êtes réellement, et en même temps, toute ressemblance politique est fortuite, en même temps, répétez-vous, affirmez-vous, mais Dieu m'aime comme je suis. En même temps, mais Dieu m'aime comme je suis. Donnez du poids à cette promesse qui peut tout à fait rester figée dans votre tête, dans votre intellect, et rendez-la réelle en la faisant descendre dans votre cœur, là où votre culpabilité, elle a une prise, que les promesses de l'amour de Dieu trouvent aussi une prise en vous. Tu m'as fait grâce, tu me pardonnes, et je peux voir en moi cet échec, ce manquement. Et toi, par ton amour, alors même que moi je me sens coupable, tu es en train de chercher à me relever, à me regonfler. Tu ne veux pas que je sois écrasé, brisé. Pourtant, je mériterais de... Ah, oui, mais nous ne sommes plus dans le règne du mérite. Pourtant, il serait jusque A, mais nous ne sommes plus dans un règne de justice rétributive. Mais si je m'autorise ces discours en moi-même, ah oui, je mérite, ah oui, ce n'est que justice, si vous vous autorisez ces discours en vous-même, alors vous ne pesez pas sur ce que Christ a fait. Vous ne laissez pas cette œuvre qui vous a arraché, qui vous a déporté d'un ordre des choses où tout se mérite, pour vous transporter dans un ordre des choses, dans une nouvelle conception du monde, où les choses ne se méritent pas, mais se reçoivent par grâce. Comment est-ce que je vais faire en sorte que ces paroles, ces promesses, cette nouvelle réalité, elles deviennent vraies dans ma vie? Il faut que j'éprouve, que je teste, que je marche pour voir si ça tient, que j'aille chercher dans ces moments où je veux me fustiger, où je veux me mépriser, où je veux me punir, où je veux considérer que je mérite que ça, où je veux me rabaisser. Ou peut-être que c'est les autres qui le font, que c'est les autres qui nous accusent. Oui, mais je vis dans la grâce. J'aime beaucoup raconter cette histoire où ma sœur, Julie, un jour se retrouve avec les huissiers qui débarquent. Avec son garçon qui devait avoir à peine 6 ans, maman solo, et la mort dans l'âme, elle va voir mon père. En larmes, humiliée, rampante, elle lui explique la situation, qu'elle a besoin d'argent. Et mon père qui ouvre des grands yeux et qui lui dit, mais pourquoi t'as attendu tout ce temps? Il ouvre son tiroir, il sort un chéquier et il dit, mais de combien t'as besoin? Et ma sœur n'en revenait pas. Elle s'attendait à se prendre un savon. Elle s'attendait à ce qu'elle doive arracher ce chèque à force de sanglots et de supplications. Elle a été complètement désarçonnée. Si je lui avais posé la question quelques jours avant, est-ce que papa il t'aime? Que m'aurait-elle répondu? Oui, oui, bien sûr. De la même manière que si je lui avais posé, est-ce que la terre est ronde? Elle aurait répondu, oui, oui, bien sûr. Mais en sortant de ce bureau de mon père, elle est passée dans la cuisine où j'étais, elle me dit, Timothée, en larmes, ne doute jamais que ton père y t'aime et si tu as le moindre souci, n'attends pas pour aller le voir. Et sa compréhension intellectuelle que son père l'aimait était devenue une réalité qui lui a étreint le cœur. Et elle a testé qu'elle pouvait peser dessus, ça allait tenir. Comment est-ce qu'on peut vivre cet état de grâce dans lequel Christ nous a basculés? Il faut l'éprouver. Pas au sens simplement il faut le ressentir, il faut l'éprouver, il faut le tester. Aller le chercher. C'est une expérience intérieure. C'est une expérience spirituelle. Ça se passe là. Mais il va répondre. Il va vous accorder cet amour qui étreint le cœur, cette profonde compréhension du pardon, cette vision de l'étendue de sa grâce. Ces choses-là qui vous ont peut-être déjà étreintes, moi qui m'ont étreinte plusieurs fois dans ma vie spirituelle. Certains ont eu des visions, certains ont eu des miracles, certains ont eu ces convictions profondes qui viennent illuminer le cœur. Quoi qu'il en soit, que ces connaissances, que ces promesses de Dieu, je t'aime d'un amour infaillible, je te pardonne toutes tes fautes et je te ressusciterai au dernier jour. Que ces promesses qui sont la fondation de notre foi, nous sachions, nous trouvions comment les rendre solides. Comment les faire passer de là, dans ma tête, voilà, dans mon cœur. Que le Seigneur vous y guide. Amen.